France Info.
Bonjour Loïc Perron.
Bonjour.
Vous êtes ce navigateur français qui nous a déjà tant fait rêver et qui nous a rendu fiers aussi. Vous avez remporté 3 fois la Transat anglaise, 4 fois le championnat du monde Orma, 2 fois la Transat Jacques Vabre, 1 fois la Barcelona World Race et la Route du Rhum et 8 fois le trophée Clairefontaine quand même. Alors oui, vous avez tout affronté contre vents et marées, parfois avec angoisse, mais principalement avec ce plaisir incommensurable qui est vôtre depuis vos premiers pas à bord d'un bateau depuis 79. Donc depuis presque 50 ans, vous êtes avant tout un coureur de large, à la fois marin et compétiteur, un skipper dessinateur, c'est aussi comme ça que vous vous définissez. Amoureux de cet espace indomptable formé par les mers et les océans, vous avez toujours été là où le vent vous a mené, parfois totalement emporté. Aujourd'hui, à 60 ans, vous publiez votre dictionnaire amoureux illustré de la voile, paru aux éditions Plongront. La voile est donc votre femme, votre maîtresse, votre meilleure amie, votre plus beau coup de foudre.
Ça fait beaucoup de définitions, mais c'est pas loin de tout ça. Il en manque certainement. Ma folie, on pourrait prendre plein de jolies chansons sur la passion et essayer de retrouver les bobos. C'est pas forcément que la voile. Quoique c'est un univers, on va en parler, j'espère, mais qui est tellement large qu'on peut mettre beaucoup de choses là-dedans. Mais il y a la mer aussi. Il y a l'eau, en fait. C'est peut-être plus ça. L'eau et la manière d'aller sur l'eau. Les outils, les bateaux, depuis toujours. Tout ce qui flotte, tout ce que le génie humain a fait depuis des millénaires pour, non pas seulement traverser, pour découvrir, pour transporter, pour se bagarrer. À coup de canon, et encore aujourd'hui malheureusement, mais à coup de régate. Ce qui est un peu plus pacifique théoriquement.
À travers ce dictionnaire amoureux de la voile, on découvre enfin qui vous êtes, Loïc Perron. C'est vrai que
il était temps.
Bah oui, mais vous démarrez ce dictionnaire en soulignant combien vous avez eu du mal pendant longtemps à mettre des mots sur ce que vous aviez vécu, sur ces émotions qui vous ont envahi à certains moments cruciaux dans ce parcours. Vous citez cette phrase, il est impossible d'être à la fois un bon artiste et un artiste capable de raconter intelligemment son travail. Il fallait laisser le temps au temps justement pour mûrir tout ça et pour poser des mots sur les mots MAUX et sur les plaisirs de la vie.
Oui, parce que tant qu'on est en activité, il me semble qu'on hésite à se confier, on hésite à mettre trop de mots sur ce qui nous fait mal, parce que justement ça deviendrait encore plus insupportable. Ça ne veut pas dire que ce genre d'activité est insupportable, mais elle l'est parfois. Mais je le dis souvent, on a ce luxe incroyable de choisir nos modes de souffrance, donc on n'a pas le droit de s'en plaindre. On a le droit de s'en plaindre éventuellement, après coup, parce que c'est vrai que tout doucement, moi je me sens comme un planeur en ce moment. Je suis en longue finale, je redescends tout doucement pour aller me poser quelque part. Je ne vois pas la piste, bien entendu, il y a quelques ascendants qui me refont prendre de l'altitude, donc des régates, des choses comme ça, qui me permettent de continuer à naviguer, mais tant qu'on ne sait pas où on va d'ailleurs. Maintenant, je sais où je vais un peu plus.
Ça veut dire que le train d'atterrissage est en train d'être...
Il n'est même pas sorti. Mais non, mais c'est vrai que c'est tout le truc. C'est qu'en fait, on cumule tout ce métier de marin assez français. Hein. C'est une spécialité très française depuis 50 ans, depuis Tabarly, depuis Kersauzon, depuis Moitessier. Et c'est beaucoup plus écrit pour les jeunes marins d'aujourd'hui, mais ça l'était un petit peu moins il y a 40 ans. Donc, heureusement qu'on ne savait pas où on allait.
C'est étonnant d'ailleurs, parce que quand on parcourt ce dictionnaire amoureux, on sent effectivement que vous avez plaisir enfin à mettre des mots sur ce qui était difficile pour vous, en tout cas dans le fait de formaliser tout ça, de l'accoucher entre guillemets. Et on a le sentiment que ça fait partie de la posture du marin, de ne pas dire réellement ce qu'on ressent. Il y a un côté très testostéroné finalement dans ce rapport avec la mer.
Ou peut-être anti-testostéroné, mais... Au moment où on est en activité, une fois de plus, je ne pense pas qu'on ait... C'est assez français. Audiard nous faisait dire que les marins avaient besoin de faire des phrases, dans les belles citations des tontons flingueurs, je crois, ou du Cap Sœur-Bif. Mais la plupart des marins sont relativement taiseux. Certains, comme moi, sont un peu plus bavards pour mettre en valeur les taiseux, d'ailleurs. D'autres, comme plus anciens, comme Olivier de Kersauzon, nous a mis de telles jolies phrases sur le monde de la mer. Ça a aidé, justement, à entretenir ce mystère un peu du marin au large, homme ou femme, d'ailleurs. Hein. On est quand même une race un peu particulière. Hein. C'est vrai, d'aller gratuitement, en tout cas, il n'y a pas du gain qui soit forcément la motivation principale, loin de là. C'est pas du tout comme un autre sport éventuel. C'est un risque étonnant à prendre, une page blanche, et puis hop, je vais traverser l'Atlantique ou faire un tour du monde et revenir au même endroit. Bizarre comme activité. Et un peu égoïste d'ailleurs, aussi. C'est peut-être ça.
Ce qui ressort, c'est le respect que vous avez entre vous aussi.
Hein. Ah oui.
Vous avez pris le temps d'ailleurs de parler de celles et ceux qui, comme vous, ont inscrit leur nom à l'histoire de la voile, à la fois hommes et femmes. Hein, donc on pense à Isabelle Autissier et surtout Éric Tabarly. Je voudrais juste qu'on souligne Éric Tabarly. Il est quand même quelqu'un d'à part dans le cœur des marins que vous êtes. Il a apporté, vous le dites, il a toujours pensé à plein de choses avant les autres. Il pensait déjà à la navigation du lendemain. C'est quelqu'un qui a fait partie de vos piliers.
Alors étonnamment, je n'ai jamais navigué avec lui.
Vous avez navigué contre lui.
Mais j'ai navigué contre lui et ses frères, et son frère, et Patrick. C'est vrai qu'Éric fait partie de notre ADN de navigateur moderne depuis 50 ans. C'est à cause de lui qu'on en est là. C'est clairement lui qui trace le premier sillage de la course au large en solitaire. Clairement, on est en 64, il va gagner cette transat anglaise.
Inscrire le nom français, un nom français face à
le premier français
légende.
À gagner une transat. Enfin, les transats existaient depuis 4 ans seulement avant, d'ailleurs. Elle a été la toute première par Sir Francis Chichester. On est en 1960.
Celui qu'il va battre, d'ailleurs.
Et il va le battre exactement 4 ans plus tard. Mais surtout, il va arriver, pas loin d'ici, en tout cas à Paris, au CNIT, l'un des premiers salons nautiques. On est en pleine expansion de la plaisance française. L'école de voile des Glénans vient d'être créée par le papa de Michel Desjoyeaux, un autre grand marin français. Et puis Tabarly, qui vient de gagner ses transats, et est reçu par le général de Gaulle. On est en noir et blanc, l'ORTF est là, et filme le général, le grand général, qui salue le petit, d'ailleurs assez chétif, mais costaud, Éric Tabarly. Donc, pop, la France découvre qu'on peut aller sur l'eau, tout seul, et faire des transats. Et c'est une alchimie qui a pris seulement sur le territoire français, d'ailleurs. On est le seul pays au monde maritime, à avoir autant de marins, autant de niveaux en solitaire. Il y a beaucoup de pays et de gens qui naviguent, bien sûr, mais en solitaire, c'est la spécialité française.
Très tôt, vous avez eu envie de naviguer. Très tôt, vous avez eu envie de construire votre bateau.
Tout petit, oui.
C'est rigolo, d'ailleurs. Vous avez pris un morceau de lambris pour faire le mât, vous avez pris un drap de votre maman pour faire la voile. Okay. Ils étaient très fiers de vous. Il faut dire que vous aviez de qui tenir avec un papa, justement, pour le coup de taiseux.
Oui, une autorité naturelle assez intéressante. C'était le commandant Perron. Des sourcils dont j'ai hérité. Vous voyez, quand ça bouge, on peut faire parler les trucs, on peut faire parler les choses un peu, et surtout il était commandant d'un des plus gros pétroliers du monde. À l'époque, dans les années 70-80, ça faisait 500 mètres de long, enfin 414 exactement, je connais les codes par cœur, quand on était petit on était passionné parce que souvent les enfants, heureusement j'espère, sont fiers de ce que font leurs parents, mais là particulièrement, par contre on était moins fiers quand on avait les carnets de notes à lui montrer, et quand il rentrait de 2 mois de promenade pour aller chercher du pétrole. Parce qu'à l'école on n'a pas forcément beaucoup brillé, ni les uns ni les autres, on est 5 frères et sœurs, et aucun des 5 n'a eu son bac. Alors je répète souvent l'histoire depuis pas mal de temps, mais enfin c'est quand même assez symbolique, à l'époque où le bac était assez difficile, certes, mais c'est pas une excuse. Et on a eu, à tour de rôle, en tout cas mes deux frères et moi-même, on a eu à tour de rôle le choix entre rester à la maison pour retenter une terminale, ou un coup de pied au cul et aller faire du bateau. Enfin, je vais expliquer un peu mieux que ça. Notre papa nous a demandé à chacun, je me souviens, moi c'était un été 78, j'ai pas eu mon bac, on est dans le port du Pouliguen, dans le petit bateau familial, puisque l'appartement n'est pas disponible, parce qu'il est loué pour payer le bateau. Et mon père me dit, tu veux refaire quoi en septembre ? Une terminale ou tu veux aller faire du bateau avec tes copains là ? Il me dit, si tu repars avec tes copains faire du bateau, tu n'as plus le soutien parental. Et ça, c'est un choix intéressant. C'est un deal génial qui a été proposé par lui. S'il avait à le refaire aujourd'hui, je ferais le même choix. Et je suis parti, avec ma petite pommelette et un baluchon et rien d'autre. Et aucune espèce de garantie d'avenir dans ce qu'est la voile aujourd'hui. Il y a 40 ans, c'est pas tout à fait pareil. Mais par contre, je l'ai souvent dit, mais ce qu'il nous avait légué auparavant, avant le coup de pied au cul, c'est 18 ans de bonne éducation. Désolé du terme désuet, mais on a eu cette chance, dans cette petite ville de province qu'est le Pouliguen, d'avoir eu des valeurs de croisière et la chance d'avoir des parents qui avaient déjà les moyens de nous emmener sur un petit bateau, mais qui nous ont inculqué une certaine indépendance, un certain respect de la valeur des choses. C'est un peu désuet, un peu bête de dire ça, mais ça sert. Étonnamment, ces fameuses valeurs dont on ne sait pas à quoi elles correspondent m'ont servi. Il n'y avait pas besoin de plus. Je n'avais pas besoin qu'on me lègue un château ou une voiture, si une mobilette, que j'avais achetée moi-même d'ailleurs.
Il vous a aussi transmis quelque chose de très important, c'est l'observation.
Oui, ça c'est le propre des marins, me semble-t-il, mais pas seulement. C'est le propre des pilotes en général, les pilotes de ligne, les marins pêcheurs, enfin eux et la plupart des gens qui font bien leur métier d'ailleurs, ils savent observer, écouter. Et ils ont les sens aux aguets. Un bon tennisman, une bonne journaliste, sait observer, sait analyser les choses et les anticiper éventuellement. Pareil chez les marins. Un bon marin, je le répète tout le temps, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire que du bateau. Dès lors, qu'il doit s'inspirer de tout ce qui peut se passer. Ça, je suis inspiré tout le temps par des formes, par tout ce qui me passe dans le champ de vision. Et c'est vrai que l'observation, elle a été un peu inculquée. On a une anecdote à bord quand on demandait, quand on était en croisière en famille, et papa, on est où ? Regarde la carte. C'était le fameux regarde la carte. C'était pas l'explication pour savoir où on est. Non, c'est à toi, tu te débrouilles. Il y a une carte. À l'époque, on avait des cartes et pas des écrans. Et il fallait regarder, ressortir le petit compas, essayer de faire des relèvements, apprendre à compter les phares. Des choses devenues un peu désuètes aujourd'hui. Alors, faut pas faire avec des cheveux blancs. On a toujours tendance à dire que c'était mieux avant. C'est pas le cas. Mais c'était différent. Et ça a permis, en tout cas, de me forger une culture maritime avec mes frères et tous ceux de ma génération, me semble-t-il, qui ont eu la chance de vivre leur première transat avec un sextant, sans satellite, sans radio, avec un mât en bois et des voiles en coton. Et les 40 dernières années qui viennent de se passer, là, on a multiplié nos vitesses par 4. Et nous, les mêmes acteurs ou spectateurs, on vole sur l'eau maintenant 6 fois plus vite que ce qu'on était il y a 40 ans. Ça, c'est une chance incroyable dans ma génération. Il n'y a pas pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas une seule Formule 1 ou une seule fusée qui va 4 fois plus vite aujourd'hui qu'elle n'allait il y a 40 ans. Seuls les bateaux ont progressé de cette manière-là. Parce qu'on était vachement lent, en fait, il y a 40 ans. C'est surtout ça.
Alors, j'ai précisé une chose pour la nouvelle génération, c'est que le sextant.
Oui, alors expliquons ce que c'est qu'un sextant.
C'est un appareil de mesure.
Il faut sortir des albums de Tintin et de voir le fameux capitaine Haddock qui, à bord du Sirius, je crois que c'est le nom du fameux bateau du capitaine Haddock, il a les Dupont à côté de lui, il manie le sextant pour relever la hauteur d'un astre par rapport à l'horizon et il l'annonce aux deux Dupont en disant messieurs, découvrez-vous. D'après mes calculs, nous sommes au beau milieu de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Est-ce que
c'est côté aléatoire.
Est-ce que tout ça, ce n'est pas ce qui vous a rendu plus fort finalement, Loïc, c'est de maîtriser les appareils de mesure, le fait de savoir où vous étiez, d'anticiper aussi, d'essayer de comprendre ce qui se passait autour de vous, d'aller chercher cette curiosité essentielle.
Alors c'est peut-être justement le fait d'être conscient de ne pas tout maîtriser, il me semble. C'est plus dans ce sens-là où ça marche. Puisque ça évolue constamment, il est difficile de maîtriser ce qui va arriver, d'anticiper ce qui peut arriver, pourquoi pas, dans la technologie comme dans la tactique, la stratégie. C'est ça ce qui est assez passionnant, c'est l'anticipation. Et laquelle est indispensable quand on se retrouve tout seul sur un trimaran de 30 mètres. Si on n'anticipe pas quelques heures, voire même quelques jours d'avance, on est pas bien, on est tout seul, assez chétif en ce qui me concerne. Et ça m'est arrivé lors d'une route du Rhum en remplacement d'Armel Lecléache, là. Il faut anticiper, il faut avoir 3 coups d'avance à chaque fois. Même si ça va pas exactement faire la même chose, il faut non seulement anticiper, mais être aussi prêt à changer de cap. C'est toute la problématique du marin, c'est que chez lui, le mot opportuniste n'est pas un gros mot. C'est une question de survie, souvent. Le vent change, bah ok, c'est pas un problème, je vire de bord. Donc en politique, c'est pas théoriquement ce qu'on est censé faire, quoique. Moi, je trouve que les gens qui changent d'avis sont des gens assez intéressants, justement. Des gens figés dans un certain carcan intellectuel, c'est pas forcément toujours très drôle.
Il y a un terme qui va être inscrit au feutre noir par votre père sur votre première voile, c'est The Pessimist.
Oui, alors ça, c'est une longue anecdote qui va...
Newport, oui. Elle est importante, cette anecdote. Vous avez compris bien plus tard ce qu'il voulait dire.
J'avais rien compris du tout, je me souviens à l'époque. Alors, on est en 68 ou 69, alors là, faut vraiment des cheveux blancs pour...
Vous 10 ans.
À l'époque, il y a la Coupe de l'Amérique déjà, le plus vieil événement sportif du monde. Et on voit évidemment, ça fait 150 ans ou du moins 130 ans à l'époque que ces duels, qui sont plutôt des bateaux de milliardaires, et le milliardaire français de l'époque qui s'intéresse à la Coupe de l'Amérique, c'est le baron Bic. À cette époque-là, on avait, comme encore aujourd'hui, mais heureusement ça se passe beaucoup mieux pour la Coupe, j'espère, dans les années à venir, pour la France en tout cas, mais la France n'a jamais gagné la Coupe de l'Amérique. Elle a même jamais perdu puisqu'elle n'a jamais participé à la Coupe. Elle a participé éventuellement aux phases de qualification, mais pas plus. Un petit bateau, une caisse à savon, la plupart des enfants qui ont eu la chance de faire du bateau, ça s'appelle un optimiste. Et moi, j'avais bricolé avec des bouts de bois récupérés dans un chantier à Port-Cribaud, qui était en construction d'ailleurs, je me souviens. Et j'avais fabriqué des dérives sur un sportiac, une sorte de petite prame en plastique, avec un mât que j'avais trouvé, des ficelles et un drap de ma maman. À la fin de mon bricolage, je commençais à naviguer et mon père s'est mis à écrire The Pessimist Newport. Voilà, c'était le jeu de mots du phasin pour bien montrer que la France n'avait une fois de plus aucune chance de gagner la Coupe et que je m'amusais sur un truc qui ressemblait à un optimiste.
Vous vous mettez vraiment tout nu hein, dans ce dictionnaire amoureux, vous mettez sur la table réellement, vous parlez de vos attachements, de ce qui est le plus important pour vous, comme ouais. Effectivement celui du plus vieux trophée du monde sportif qui pèse environ 18 kilos, vous le précisez, l'America's Cup. Votre plus vieux souvenir, c'est celui-là. Effectivement, on est en 69. Mais vous avez déjà une fascination pour ça. J'ai l'impression que déjà là, vous nous expliquez que vous rêvez déjà grand.
Je sais pas, mais en tout cas, je me suis pris très tôt de passion pour tout mode de navigation. Toute la littérature maritime, et pas forcément Tabarly d'ailleurs. J'ai lu beaucoup plus tard les bouquins d'Éric. Les bouquins de marins de course n'étaient pas très passionnants, pour être très franc. Ils racontaient les journaux de bord de régates, c'est pas terrible. Ce qui m'intéressait, c'est les pirates, les corsaires, les aventuriers ou les familles qui ont décidé dans les années 68, quand les pavés étaient sous la plage, de fabriquer leurs bateaux en béton armé dans une banlieue parisienne et de les mettre à l'eau et d'aller découvrir les cocotiers.
Donc ceux qui partaient à l'abordage, en quelque sorte.
Qui partaient un peu vraiment à l'aventure la plupart du temps, mais pas en régate. Et la plupart de ces bouquins étaient édités chez Artaud, d'ailleurs, les parents de Florence. Les éditions Artaud, et chez mes grands-parents, il y avait tous les bouquins de la collection Artaud. Donc ça, j'ai dévoré tout ça. Et donc, ça m'a forgé peut-être une conviction sur le fait que j'avais envie de, non seulement de connaître un petit peu, mais de respecter l'histoire pour mieux voir l'avenir. C'était un peu ça le truc. De me dire que forcément, ça bougeait, mais je l'ai su plus tard. On sait toujours plein de choses plus tard, heureusement, mais c'est pas plus mal qu'on ait... Faut pas les connaître trop tôt, parce que sinon on ferait pas le chemin. Mais c'est ça le truc. Et je trouve qu'il y a une petite évolution, une assez grande évolution dans pas mal de domaines où certaines générations un peu plus récentes, pas seulement de marins, ne comprennent pas que l'histoire qui leur a permis d'être là aujourd'hui est importante pour leur avenir.
Vous démarrez avec la lettre A, mais vous y associez immédiatement le mot abri. Vous dites que la croyance terrienne, c'est vrai que c'est comme ça qu'on l'imagine, pourrait laisser entendre que le marin cherche absolument à s'abriter
En cas de grosse tempête.
Voilà, mais est-ce que justement, la voile pour vous, le fait de naviguer, a représenté ça, une sorte de refuge ? Parce que vous étiez enfant attiré par la terre, mais donc en même temps, cette terre, on a le sentiment qu'elle vous a toujours un peu fait peur et que c'était un moyen pour vous de vous évader, de naviguer.
Vraisemblablement. Quand je fais ma première transat tout seul à 19 ans, je m'évade. Mais c'est parce que je veux aller sur l'eau, bien sûr. Être tout seul, parce que c'est l'un des moyens, en France, une fois de plus, de démarrer la course en solitaire, pour les raisons évoquées précédemment. C'est un peu le passage obligé. Mais j'en reviens à cette notion d'abri. C'est intéressant. C'est vrai qu'on peut imaginer que le terrien imagine que le marin, dans la tempête, doit chercher un port à tout prix. Certes, c'est vrai. Ou bien il est déjà dans le port. Et tout va bien. Mais c'est vrai que l'approche, maintenant c'est un peu plus facile, mais le plus gros danger de la mer, c'est la terre. Et tout ce qui vient de la terre. C'est la terre parce qu'il y a des rochers, c'est la terre parce qu'il y avait des naufrageurs qui imitaient des phares en mettant des feux sur les îles pour faire en sorte que les bateaux fassent naufrage juste à côté et s'échouent. C'est vraiment un grand classique, des Iliens et d'ailleurs. Et ça s'est un peu amélioré en termes d'approche, mais il vaut mieux pas être proche de la terre. Il vaut mieux affronter une tempête en pleine mer avec de l'eau à courir, on appelle ça, pour autant que le bateau ne chavire pas. Et ainsi. Mais après, quand on a une telle anticipation sur la météo maintenant, depuis quelques années, depuis de nombreuses années, la météo devient de plus en plus précise, comme la limite des icebergs, on fait, vous savez, le Vendée Globe, ce fameux tour du monde qui part des Sables d'Olonne pour y revenir. Bon, grande promenade touristique, certes, mais la première édition, on n'avait pas de limite de glace. On était coincé dans les glaces avec mon copain VDH. Il y avait des icebergs partout. Fort heureusement, maintenant, il y a une limite de glace parce qu'on sait où elles sont par les satellites et que les bateaux vont tellement plus vite que ce serait encore plus dangereux. Mais ça enlève un peu de piment.
Vous précisez tout de suite que le bateau est d'abord une source d'inquiétude, qu'à l'abri, l'anxiété du matin est décuplée, car un bateau tire sur ses amarres comme un pur sang sur ses morts. C'est beau, hein, y a toujours cette forme de poésie. Mais vous avez mis beaucoup de temps d'ailleurs à l'assumer, entre guillemets, cette poésie. Comme si vous aviez un problème de légitimité et un syndrome de l'imposture.
Ah non, je pense pas. Non, je me suis souvent attaché à essayer de rendre les choses, de faire croire que les choses étaient faciles. C'est presque tricheur, mais dans l'autre sens. Je n'aime pas rendre les choses difficiles. Donc en gros, j'ai une sorte de comportement un petit peu léger. Et plus c'est difficile, plus je dois alléger les choses. Je sais pas pourquoi. Et particulièrement en équipage. Plus la situation est dramatique, plus je suis léger. Moins je parle fort. Donc faut se méfier. Quand je parle plus du tout, c'est que ça risque d'être dangereux. Mais l'autre chose, oui, j'aime bien dédramatiser. Ça, c'en est une. Et j'aime bien aussi vulgariser. Essayer d'expliquer au plus grand nombre. D'utiliser des mots compréhensibles par tout le monde. Et puis rajouter un peu de poésie là-dessus, si possible. Enfin, poésie, c'est un grand mot, mais quelque chose avec un peu de vocabulaire, c'est pas...
Il y a un côté chez vous un peu conquérant, c'est-à-dire que vous étiez attiré par quelque chose d'assez angoissant, puisque vous parlez d'inquiétude quand on parle de bateau. C'est ça qui fascine autant que ça fait peur, ce rapport avec la voile, avec le bateau, avec la mer, avec les océans, c'est que malgré l'expérience, tout reste indomptable.
Heureusement.
C'est assez fascinant d'ailleurs.
En général, on en est conscient assez vite, voire même tout de suite. On sait qu'on ne gère pas ni on dompte pas les éléments. Après, on a au moins deux manières de voir les choses. Et c'est vrai que dans la génération à laquelle j'appartiens, on a eu deux piliers. Il y avait Tabarly d'un côté et moi j'ai eu Mike Birch de l'autre. Mike Birch, c'est le premier vainqueur canadien de la première route du Rhum en 78. 1978, ce monsieur Birch, inconnu au bataillon au départ de Saint-Malo, à l'époque il y a les stars Tabarly, Kersauzon qui sont déjà là, il va gagner et ça va être le début de la légende de la route du Rhum. Il va battre un monocoque. Lui, il est sur un tout petit trimaran jaune de 12 mètres. Il va battre un monocoque de 20 mètres de long, double marine, de 98 secondes. Début de la légende de la route du Rhum, arrivé en Guadeloupe, donc. Mike, c'était le roseau. Tabarly, c'était le chêne. La fable nous indique, de monsieur de La Fontaine, comment ça s'est passé. Eh bien, c'est très exactement... J'ai eu la chance, un, de ne pas naviguer avec Tabarly, ça j'aurais adoré, évidemment. Mais surtout de naviguer avec Mike, parce qu'il m'a appris justement à courber le dos, à ne pas contrer les éléments, à essayer d'accompagner les énergies. Eric, c'était très différent. Eric, c'était le chêne. Et il disait souvent, si ça casse, c'est pas assez solide. Il a même un petit feu comme ça. C'est tout. Le spi vient de casser, bah on remet un spi. Mike, c'est on casse pas le spi. On peut pas. On fait du convoyage rapide parce que c'était son école à l'époque et il gagne la route du Rhum, il peut pas la prendre.
Je voudrais qu'on parle d'un homme très important pour vous, Jean-Yves Terlin.
Oui.
Votre Jim Morrison de la voile, qui vous a fasciné très tôt et à plusieurs reprises d'ailleurs. Il avait effectivement ce côté aventurier quoi, qui vous fascinait quand il revenait de ses périples, notamment Katmandou par exemple. À 12 ans, vous avez assisté à la mise à l'eau du voilier Vendredi 13 et qu'il a barré pour la transat anglaise. À ce moment-là, ça bascule dans votre tête.
Un peu. Alors,
cet esprit de liberté.
J'en fais un moment fondateur, c'est vrai, mais c'est une anecdote intéressante. Jean-Yves Terlin, c'est donc le frère de ma maman, c'est mon oncle, qui est un garçon marin des années 70 qui va naviguer contre Tabarly, qui jouait du turlisiphon avec la fanfare des Beaux-Arts, qui avait dessiné les premiers stands intelligents qui présentaient qui mettaient les bateaux en valeur, justement, lors des salons nautiques pour le chantier Dufour, qui était un grand chantier naval des années 70-80. Et il va faire la Transpacifique, il va faire la Transat, contre Tabarly d'ailleurs. Et puis, il rencontre un jour Claude Lelouch. Et ce Claude Lelouch, après avoir fait un homme et une femme, décide de faire un homme et un bateau. On est en 70, un truc comme ça. Et il rencontre Jean-Yves, et ce Jean-Yves Terlin décide de construire le plus grand monocoque du monde, énorme pour l'époque, un grand, grand tube, un grand cigare de 39 mètres de long, ce qui était colossal. Il n'y avait pas un bateau qui faisait plus de 12 ou 15 mètres à l'époque. Avec trois mâts. Le fameux Vendredi 13 des films 13 de Lelouch, puisque c'est la boîte de production de Lelouch. Et j'ai donc 12 ans. Il y a un jeune équipier qui aide mon tonton Jean-Yves, qui est là, dans une méhari qui sent bon le patchouli à 4 heures du matin en février 72. Le patchouli et d'autres herbes un peu illicites. Et puis, je me retrouve dans une méhari, parce que ma maman a demandé à son frangin, mais est-ce que tu pourrais m'emmener le petit à la mise à l'eau du vendredi 13? Et ce bateau est mis à l'eau dans la brume matinale, au pied du pont de Saint-Nazaire, qui n'existait pas à l'époque. Donc, évidemment, fondateur. Et je vous ai dit, oui, donc, l'équipier à côté de mon tonton, c'était Olivier de Kersauzon.
La dualité pour un marin, finalement, c'est de se construire au travers des autres, parce qu'encore une fois, il y a ce respect commun, et il y a ce besoin quand même de se nourrir des autres qui sont passés avant vous, pour plein de raisons, par respect déjà aussi.
Et puis nos équipiers. Nos équipiers. Quand on est équipier soi-même.
Travail d'équipe. C'est très solitaire finalement d'être sur un bateau, mais par contre si on comprend pas que l'équipe est essentielle, on ne peut pas y arriver.
Alors ça s'est nettement renforcé. Toutes les courses en solitaire aujourd'hui, évidemment, se préparent en équipe depuis longtemps. Mais ma première course en solitaire, j'étais tout seul. Puis la deuxième, on était deux. Et puis la troisième, on était trois. Mais j'étais toujours tout seul sur le bateau. Bon, la pyramide, c'est un petit peu hiérarchisé, mais c'est un peu comme ça d'ailleurs. Et les écuries de course au large sont forcément de plus en plus compétentes, avec des spécialistes, poste par poste. Donc c'est la partie émergée de l'iceberg de l'aventure solitaire, c'est le marin lui-même, homme ou femme. Mais pour que tout ça tienne en équilibre, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé au préalable et qui continuent de travailler. Heureusement, ça se recalme un petit peu en ce moment. Après, il y a cette notion d'assistance ou pas d'assistance. Certaines courses, fort heureusement, l'interdisent totalement. Mais il y a ces moyens de communication dont on parlait tout à l'heure qui font que le marin solitaire se sent de moins en moins solitaire. D'ailleurs, à aucun moment, le marin solitaire cherche la solitude ou regrette la solitude.
Mais en même temps, elle nourrit.
Mais bien sûr. Et c'est l'une des motivations principales des courses en solitaire, c'est justement non pas d'être tout seul, mais d'être tout seul face à d'autres personnes qui sont toutes seules sur des engins plus ou moins équivalents. Et souvent, si possible, identiques.
Pour terminer, vous avez traversé 50 fois l'Atlantique.
Je compte plus. À partir de 50, je compte plus.
Couru 4 éditions de la solitaire du Figaro. La dernière fois en 2019, tourné 4 fois autour du monde. Ouais. Vous avez triomphé 3 fois de la Transat anglaise, disputé 3 Coupes de l'Amérique pour une défaite d'ailleurs avec les Suisses d'Alanguy. Remporté la Route du Rhum à 54 ans, un âge où les skippers solitaires, normalement, c'est vos mots, hein. De votre génération, souvent raccrocher les bottes, même si vous n'êtes plus dans ces courses-là, qu'est-ce qui fait que ça ne s'arrêtera jamais, que vous aurez toujours ce besoin d'aller sur l'eau?
La manière de l'approcher devient différente. Il y a quelques ascendants, je vous le disais tout à l'heure, qui me permettent d'aller naviguer en équipage, d'apprécier la régate pure, de rentrer au bistrot tous les soirs, de ne pas forcément faire deux transats par an en moyenne, mais d'en faire une. Je vais en faire une encore dans très peu de temps sur un trimaran, mais en équipage. J'ai qu'une envie, c'est de repartir beaucoup en croisière, si je peux, ou à minima, au moins une fois en croisière avec mes enfants, ou mes petits enfants, évolution familiale récente. Ce qui donne envie d'y retourner, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des grandes oreilles pour entendre bien, tout comme on n'est pas obligé d'aller vite sur l'eau pour se sentir bien, bien au contraire d'ailleurs, sincèrement, c'est surtout quand ça ralentit que ça devient plus agréable. On n'est pas obligé d'être sur le plus grand bateau du monde pour être le meilleur marin du monde, du tout. La voile est un sport avec un spectre ahurissant, extrêmement large. Il y a tellement moyen de s'exprimer. Là, depuis deux ans, je fais de la régate pure, de la vraie régate, sur des TP52. Vous ne les voyez jamais à l'image, c'est un regret d'ailleurs, parce que c'est très bien produit. Je vous conseille d'aller voir ça. Super Series TP52 sont que des bateaux de propriétaires. On est 14 à bord, des bateaux de 16 mètres. Je ne suis pas le barreur, je suis le tacticien, ce qui est un rôle extrêmement grave, du moins, avec une pression considérable. C'est-à-dire que quand on gagne, ce qui est rare, c'est grâce à l'équipage. Quand on perd, c'est toujours à cause de moi. Donc vous voyez le genre de truc, et j'adore. La remise en question est intéressante, la redécouverte de moyens de navigation. Et puis c'est à la fois un petit village, un peu consanguin ou presque, mais c'est passionnant de conseiller des chantiers navals, comme le chantier CDK qui fabrique à Lorient, qui fabrique les plus grands trimarans du monde, les fameux ultimes qui volent au-dessus de l'eau, ou des chantiers navals de croisière. Ou à tout âge, en fait, on peut s'exprimer, c'est une bonne nouvelle.
Merci beaucoup, Loïc Perrin, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info.
Merci.
Dictionnaire amoureux de l'illustré de la voile, sorti chez Plongrundt. Merci beaucoup.